l'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Vous suivez Radio Mandeléo, auditrices et auditeurs, c'est l'heure du journal. Au sommaire, certains villages situés en face du centre commercial de Mugogo dans les territoires de Walungu se sont vidés de leurs habitants ce mardi 13 janvier 2026. Ceci suite aux accrochages signalés entre des éléments Wazalendo et les militaires de l'AFC M23 toute la matinée. En traitant les cas de traumatisme psychologique continuent d'être signalés dans plusieurs coins de la province du Sud Kivu. Cela serait dû à l'accumulation de stress chronique dans les chefs de la population. Pour y faire face, Rifin Lukobeka, psychologue clinicien, appelle à la résilience individuelle et collective. Voilà tout pour les titres. Hélène Boudjiri, c'est mon nom, Barton Boussimia sur la mise en onde. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous l'avez suivi en titre, le calme est revenu à Kidodobo et ses environs dans les groupements de l'Oural en territoire de Walungu sur la route nationale numéro 2 Bukavu-Walungu-Mwenga. Ceci après des accrochages signalés entre des éléments Wazalendo et des militaires de l'AFC M23 la matinée de mardi 13 janvier 2026. Myriam Moufano nous en parle.
Des sources sur place expliquent que tout est parti d'une embuscade tendue par des éléments Wazalendo contre le militaire de l'AFC M23 qui convoyait des camions citernes transportant du carburant en partance pour les sites miniers de Twangiza en territoire de Mwenga. Sur place, des échanges, des tirs ont éclaté entre le belligérant, qui aurait même fait recours aux armes lourdes, créant une panique au sein de la population, ajoute un défenseur des droits humains contacté dans la zone. Suite à cette situation, certains villages situés en face du centre commercial de Mugogo, comme Nyabuguru, Fonzi, Chihinga, Nyungwe et Irango, se seraient vidés de leurs habitants par crainte de représailles. Ces derniers se seraient dirigés certains vers les centres commerciaux de Mugogo et d'autres dans des villages environnants. Profitant de ces vides, des voleurs se sont introduits dans des maisons pour piller le bien de paisibles citoyens. Entre-temps, des élèves qui étaient déjà dans leurs écoles ont été contraints de rentrer chez eux suite aux détonations, souligne un responsable d'école contacté par Radio Maindeléo. Deux habitants du milieu dénoncent par ailleurs la présence de barrières illégales érigées dans leur village par des hommes en armes et où chaque passager est contraint au paiement d'une somme d'argent avant toute traversée. Dans le groupement d'Izégué par exemple, ce sont des civils bien connus dans la zone qui ont pris des armes pour tracasser la population. À chaque tombée de la nuit, des passants sont torturés et voient leurs biens ravis par ces personnes qui auraient quitté leur position dans des mouvements de Wazalendo, rapportent des témoins sur place. Les habitants plaident pour l'aboutissement des différents processus amorcés dans les cadres du retour de la paix afin qu'ils regagnent leur village et y poursuivent leurs activités quotidiennes.
Entre-temps, plusieurs villages des hauts plateaux de Kalehe, à savoir Katasomwa, Nyawarunga, Lijiwe, Kasasa et leurs environs, continuent de se vider de leurs habitants qui préfèrent s'installer vers les littorales. Ces habitants fuient des combats violents qui opposent régulièrement les combattants Wazalendo aux troupes de l'AFC M23 dans cette partie de la province du Sud Kivu. Dans l'aire de santé de Tchofi, par exemple, il s'agit de plus de 2600 ménages qui y sont déjà recensés, à en croire les comités communautaires d'alerte précoce dans cette entité du territoire des Kalehe. En date du 12 janvier, des centaines d'autres habitants sont arrivés dans la zone fuyant de nouveaux affrontements entre les combattants Wazalendo et les troupes de l'AFC M23. Dans leur zone de déplacement, ces habitants font face à plusieurs difficultés, notamment celle d'accès à l'eau potable, aux soins de santé ou encore aux besoins spécifiques tels que la nourriture. Ces derniers plaident pour une assistance de la part des organisations humanitaires et autres personnes de bonne volonté. On écoute à ce sujet Fura Mwabunyege, une déplacée en provenance des hauts plateaux.
Tumekimbia vita sababu kuju kuko vita ya mingi sana sana manake watu wanateseka kule. Tunajiuliza kama tukimbilie.
Nous avons fui car dans les hauts plateaux la guerre fait rage. Même lorsqu'on fuit, même lorsque tu fuis, tu peux rencontrer des militaires qui vont menacer de te tuer.
Basi na kuko wenye watapotea sa vila hapa kwenye niko.
Dans la fuite, on ne se rappelle que des enfants. D'ailleurs, nombreux sont ceux qui s'égarent. Par exemple, moi, je rencontrais des enfants égarés et je ne pouvais les laisser.
Hakuna. Vyote vile vyote tulibiacha kule, wengine akose njo bako na bikula bale ba. Ndiyo kuko ba mama venye balipata.
Nous avons tout laissé et je pense que ça sera pillé par les combattants. Il y a même des femmes violées car elles sont prises des forces et n'importe comment. Nous plaidons pour une assistance de tout genre car nous souffrons énormément. Ayez pitié de nous.
Tusaidie hata na chakula ya kukula sababu huku tunateseka sana, magonjwa natupiga na pesa hakuna, vraiment batuone na jicho la huruma.
Pendant ces temps, ce sont les cas des traumatismes psychologiques qui continuent d'être signalés dans plusieurs coins de la province du Sud Kivu. Cela serait dû à l'accumulation des stress chroniques dans les chefs de la population. Ces cas se traduisent par plusieurs signes, notamment les suicides, la prise de décisions parfois extrêmes, comme l'abandon volontaire des enfants et la prise exagérée des stupéfiants. Myriam Moufano, je te reprends pour en parler.
C'est par exemple dans le village de Chirato, Kamakombe, groupement de Bougori, un territoire des Kabare, où une femme a abandonné volontairement son nourrisson, laissant une lettre dans son habit en date du lundi 12 janvier dernier. Pour Rifan Rokobeka, psychologue clinicien à l'hôpital général Dr Rode Chiriri, plusieurs facteurs seraient à la base de cette récrudescence des troubles mentaux. Il cite notamment la précarité grandissante dans le ménage, la peur permanente alimentée par les conflits armés, l'incertitude liée à la perte d'emploi et de revenus, ainsi que l'isolement social. Il estime qu'en pareilles circonstances, la résilience individuelle et collective sera importante afin de faire face au choc. Cela passe notamment par les soutiens moraux entre proches, la communication au sein de famille et la restauration de l'espoir à travers des actions communautaires positives. Rufan Lukobeka en parle.
Nous vivons une situation traumatogène parce que notre société ne fonctionne pas actuellement comme ça a l'habitude de fonctionner. La présence des services sociaux de base de l'État n'est pas présente, les services étatiques aussi n'est pas présent. Alors du fait qu'il y a l'absence de ces services de l'État là, il y a manque de liquidité auprès des circulations. Et ce manque de liquidité auprès des circulations fait en sorte qu'il y ait une forte crise au niveau de la population. C'est que nous avons la capacité de nous adapter naturellement. Ça veut dire que nous sommes des êtres humains, nous avons des côtés. Ça veut dire les bonheurs et les malheurs. Ces derniers temps, nous traversons les mauvais côtés de la vie. Maintenant, nous devons nous adapter parce que nous avons l'espoir qu'il y a aussi du bon côté. Et nous devons cultiver cette capacité. Donc, nous devons raviver l'espoir en nous. Nous partageons les mêmes peines et les mêmes difficultés. Puis, sans oublier que nous devons nous rapprocher de Dieu. Nous avons nos églises respectives auxquelles nous devons nous approcher. Dès qu'il est sûr, ça va passer.
Il recommande également aux ONG, aux structures sanitaires et aux institutions spécialisées d'organiser régulièrement des séances de détraumatisation communautaire appuyées par un accompagnement psychosocial de proximité pour aider les personnes affectées à retrouver un équilibre mental et émotionnel.
Et les habitants du territoire des Kabare sont appelés au vivre ensemble, dans l'amour, la cohabitation pacifique, en évitant la haine, les accusations calomnieuses ou toute autre situation qui peut provoquer la nuisance auprès des voisins proches. Message lancé mardi 13 janvier 2026 par la société civile des Kabare après des alertes faisant état de la recrudescence des cas d'accusation des uns contre les autres au sein de la communauté. Pour la société civile des Kabare, même en cas de mésentente, les habitants doivent développer la culture du dialogue, des médiations et faire recours à des structures communautaires de résolution pacifique des conflits. Cette structure rappelle que ces accusations auprès des hommes armés ont des conséquences néfastes au sein de la communauté telles que des enlèvements, les arrestations et même les cas d'assassinat. On écoute à ces sujets les rapporteurs de la société civile des Kabare, Barthélémy Mwamboussa.
La société civile des Kabare lance un appel de solidarité à toute la population des Kabare et ses environs, bien sûr. La population devrait être résiliente, s'adapter aux problèmes que nous traversons actuellement. On ne devrait pas s'en traquiser. Nous demandons aussi les leaders religieux d'aider la société civile pour que, ensemble, nous puissions travailler pour que la population vive dans la paix, dans la cohésion, qu'on ne s'en traquise plus, parce que après cette situation, nous allons continuer à vivre. Ça ne sert à rien de s'en traquiser. Nous tous, nous sommes les mêmes et nous sommes appelés à vivre ensemble. Nous demandons aux gens de résoudre leurs problèmes à l'amiable. Si vous avez un problème avec votre voisin, avec votre frère, c'est mieux de chercher quelqu'un qui va faire la médiation. C'est ce que nous appelons règlement pacifique des conflits. Et là, vous allez trouver une solution à l'amiable et vous allez continuer à vivre ensemble.
Barthélémy Mwamboussa est le rapporteur de la société civile des cabarets. Et le président angolais João Lourenço est appelé à clarifier les zones d'ombre entourant la nouvelle initiative de dialogue amorcée pour le retour de la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Ceci après des réserves et questions lui adressées par l'AFCM 23 après avoir reçu l'invitation pour participer à ces processus en Afrique. C'est ce que pense Oswald de Rubacha, acteur de la société civile au Sud Kivu, dans une interview avec Radio Maïndéléo, mardi 13 janvier 2026. Pour lui, ces clarifications sont urgentes car elles conditionnent non seulement la participation des principales parties prenantes, mais pourraient également garantir la crédibilité même du processus. Oswald de Rubacha pointe une perte de confiance progressive alimentée par la dispersion des initiatives diplomatiques et la multiplication des formes des discussions ces derniers mois, de Washington à Doha, puis à Luanda, autant de pistes qui, loin de converger, donnent l'impression d'un pouvoir qui avance seul au risque d'allonger les calendriers et d'épuiser les acteurs, estime Oswald de Rubacha. Selon lui, l'attitude actuelle du chef de l'État traduit un isolement préjudiciable, comme si les temps jouaient pour lui alors que le contexte impose l'inverse. On l'écoute.
Cette multiplication d'intervenants ou de médiateurs donne l'impression de quelqu'un qui ne veut pas régler la question rapidement. Ça donne l'impression de quelqu'un qui gagne le temps, quelqu'un qui a tout son temps, quelqu'un qui apparemment estime que tout le monde doit suivre sa propre volonté. Il doit être le maître de l'horloge. Et ça, c'est très dangereux. Dans un contexte complexe comme la RDC, donne l'impression que tout le monde doit suivre le pas d'un président avec tout le respect que je lui dois. Donc, quand même que la crise est tellement complexe qu'il est difficile de donner l'impression que tout le monde doit suivre les pas, que l'initiative doit être celle qu'il décide. C'est difficile. Et c'est l'impression que ça donne en multipliant les médiateurs, en multipliant les processus, en multipliant les capitales ou des États pour assumer fonction de médiateur dans la crise congolaise. En fait, ça donne aussi l'impression de quelqu'un qui balade les autres. C'est aussi une stratégie de diversion. Parce qu'on ne veut pas régler la question maintenant. On vous amène à gauche, à droite, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud.
Oswald de Rubacha est acteur de la société civile au sud que vous. Vous suivez Radio Maïndéléo. La suite de cette édition, c'est juste après cette courte pause.
Suivez Radio Maïndéléo en direct partout dans le monde sur www.radiomaïndéléo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Maïndéléo. Radio Maïndéléo, c'est vous.
Changeons de chapitre et parlons de la prime de gratuité des enseignants du primaire qui sera désormais intégrée dans les salaires de chaque enseignant et sera payée au même moment. Cette prime ne sera plus payée sur la ligne des frais de fonctionnement mais sera versée directement sur les comptes des enseignants et cela à partir de ce mois de janvier. Ceci est contenu dans un communiqué de service adressé aux directeurs provinciaux de la Direction nationale du contrôle et de la paie des enseignants d'INACOP. En sigle, ceci est le fruit du plaidoyer des syndicats des enseignants du Sud Kivu à travers leur porte-parole Jacques Chirimwami auprès de la ministre en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Celui-ci loue la promptitude du ministre du budget qui a reçu l'ordre d'instruire à la direction de la paie de passer à l'action. Jacques Chirimwami en parle.
Après la concertation avec toutes les autorités nationales, nous avions réussi à arracher par un plaidoyer à intégrer la prime de la gratuité dans les salaires de chaque enseignant, afin que les enseignants ne fassent pas de déplacements à Kinshasa ou même à Butembo pour accéder à la prime de la gratuité. Nous avions aussi arraché notre plaidoyer, se mettre fin au système de délestage au Sud Kivu. C'est-à-dire, comme vous le savez, pour payer les enseignants payés par le trichement de la Caritas, il faudrait faire 60 jours. Mais actuellement, ces enseignants sont en train d'être payés au même moment que les enseignants qui touchent par la banque. Il reste aussi une revendication qui va faire l'objet de notre lutte. Ce sont les cartes expirées. Plusieurs cartes sont déjà expirées. On n'a pas de banque où il faut réouvrir les comptes. Et nous comptons maximiser ça parce que nous avions trouvé la solution, mais on constate qu'il y a encore quelques irrégularités.
Néanmoins, il est demandé à tous les directeurs provinciaux dont la paie est assurée par la Banque Afriland et Caritas de communiquer jusqu'au 15 janvier les rapports d'évolution de la paie des arriérés des salaires des enseignants de leurs entités et d'envoyer chaque jour les rapports exhaustifs de l'état d'avancement de cette paie si ces deux institutions n'ont pas apuré les arriérés des salaires des professionnels de la CRE. Avant d'entamer la deuxième partie de cette édition, parlons d'un maxi-single de 4 titres, composé d'un générique et de 3 chansons. C'est l'un des projets phares annoncés pour le premier semestre 2026 par l'orchestre Bayol Music Band. Cette annonce a été faite mardi 13 janvier 2025 au cours d'une séance d'évaluation des activités de l'an 2025 et des planifications des activités de cet orchestre pour cette nouvelle année. Alain Kabika.
À en croire le président et leader de cet orchestre, Olivier Bayongoa, connu sous le nom de Roi Bayol, son orchestre prévoit s'ouvrir davantage aux médias et aux plateformes numériques pour cette nouvelle année, dont le seul objectif d'offrir au public des productions en temps réel. Il en dit que cette démarche vise à accélérer la digitalisation de ses services et à améliorer sa présence sur la scène musicale. Dans le même élan, un concert réservé à la grande notabilité régionale est programmé pour les mois de février prochain. Sur les plans artistiques pour cette année 2026, l'orchestre entend réaménager son répertoire afin de les rendre plus adaptés aux spectacles publics, aux soirées festives et aux prestations dansantes. Le président et leader de l'orchestre Bayol Music Band, Olivier Bayongoa, en parle.
Pour la projection pendant cette année 2026, nous avons décidé de réaliser un maxi-single de 4 titres avant la fin du premier semestre de l'année en cours, c'est-à-dire 2026. Deuxièmement, parmi les grandes réalisations, nous allons nous inscrire aux médias et plateformes monétisables pour une présentation et une commercialisation digitale de nos services. Troisièmement, il y a un grand concert que nous nous permettons déjà d'annoncer, un concert organisé à l'intention de la grande notabilité du Grand Kivu. Et donc, ces grands concerts, nous pensons que ça va être d'ici là au mois de février. Ça sera un concert payant. Le droit d'entrée sera à 100$.
Dans ces assises, la recherche des partenaires et bailleurs des fonds a été lancée pour soutenir la création d'un grand studio du Bayol Music Band à Bukavu, projet présenté comme structurant pour l'avenir du groupe. S'agissant de l'organisation interne, la continuité du paiement mensuel des membres, l'acquisition d'un bus moderne pour les transports des musiciens, ainsi que des actions de renforcement des capacités, ont été confirmées pour plus de professionnalisation. La réglementation interne a été également renforcée. C'est comme par exemple l'interdiction de consommer de l'alcool en pleine prestation pour les artistes, l'usage du téléphone suspendu durant les performances et l'interdiction des sorties en pleine prestation.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maeneleu. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
En sport, Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 place ce mercredi 13 janvier 2026 au match de demi-finale à suivre à partir de 19h heure de Bukavu, les Lions de la Teranga du Sénégal face au Pharaon d'Égypte. Sacrée bataille attendue entre les deux formations qui ont accédé à cette étape de la compétition après avoir éliminé respectivement le Mali et la Côte d'Ivoire en quart de finale. Le Sénégal va à l'occasion disputer une nouvelle finale face à des Égyptiens visiblement motivés pour la même cause. Dans l'autre rencontre du jour, le Maroc, pays organisateur, en découdra avec le Nigeria à partir de 21h heure de Bukavu. Ici également, la bataille s'annonce rude entre d'une part la nation qui organise cette compétition et l'autre qui rêve de soulever les trophées après la finale perdue, l'édition passée face à la Côte d'Ivoire.
La revue de presse, Radio Maïndélé au Capt, vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
La carence de l'eau potable dans la chefferie Tambouka en territoire d'Idjoui, l'exploitation illégale des pierres à la base de plusieurs risques environnementaux dans les groupements de Moudoussa en territoire des Kabaré et les choix du stade TP Mazembe de Lubumbashi par les clubs congolais de l'AS Maniema Union pour ses matchs continentaux font partie des sujets commentés par la presse mardi 13 janvier 2026. Alain Kabika nommé à musique la revue de presse.
La société civile du groupement Nyakalengwa alerte sur les risques et des maladies hydriques dans les villages Kilala, Moulamba, Mazina Karama et une partie du village Muhungwe suite à une pénurie d'eau potable dans cette partie de la chefferie Tambouka en territoire d'Idjoui, annonce le site internet lapresseafricaine.net. Dans son entretien avec ces médias lundi 12 janvier 2026, Hermando Zabuna, président de cette structure citoyenne, confirme que ces villages ne sont plus desservis en eau potable depuis des mois suite à la mauvaise gestion du comité d'adduction qui raccorde des particuliers avec clientélisme et complaisance. Pour lui, cette situation affecte des milliers d'habitants qui sont obligés d'épuiser de l'eau du lac et sont exposés aux maladies d'origine hydrique. Contacté à ce sujet, Chebwenemwami Mwitaba, président de l'adduction d'eau de Nyakalengwa, expose une liste des problèmes auxquels l'adduction est confrontée. Il cite notamment la surpopulation de la zone qui a galopé en 20 ans car l'adduction construite depuis 2025 n'a jamais connu des renforcements avec aussi beaucoup de problèmes techniques à ce jour. En plus, il note que le fait de rendre disponible au quotidien l'eau au centre hospitalier Nyakalengwa et d'autres structures locales provoque des ruptures sur les bornes et fontaines publiques. Dans un autre sujet, le site Jambo RDC s'intéresse au territoire de Kabare et annonce que les installations de la régie des eaux dans les groupements de Moudoussa sont menacées par un éboulement des terrains. Dans une alerte datée du 11 janvier 2026 et consultée par ces médias, la société civile Force Vive de Moudoussa, citée par le site internet Jambo RDC, évoque une menace qui est le résultat de l'exploitation illégale et anarchique des pierres dans les sous-villages Kalangwe et Nyangouloubé. Cette structure ajoute que ces activités illicites sont à l'origine des dégâts environnementaux considérables, mettant en danger non seulement les infrastructures hydrauliques, mais aussi la sécurité des habitants, la libre circulation des personnes et de leurs biens dans la zone. Elle appelle les autorités locales, territoriales et provinciales d'intervenir urgentement pour stopper cette exploitation dangereuse, de suspendre toutes les activités minières artisanales dans les zones à haut risque, d'identifier et sanctionner les auteurs de ces actes illégaux conformément à la loi, protéger les ménages menacés par des mesures d'accompagnement d'urgence, créer une voie de déviation provisoire pour sécuriser la mobilité dans les zones affectées et enfin demander à la régie des eaux de préserver l'approvisionnement en eau potable pour les communautés locales. La société civile exhorte également la population à faire preuve de responsabilité citoyenne en protégeant les ressources naturelles, les biens publics et la vie humaine. Bouclons cette revue de presse avec le site radio okapi.net qui annonce que l'AS Maniema Union de Kindu disputera ses matchs des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football au stade TP Mazembe de Lubumbashi. Dans une correspondance officielle adressée lundi 12 janvier 2026 au comité dirigeant du TP Mazembe, le club de Kindu a sollicité la domiciliation de ses rencontres à domicile de la Coupe de la Confédération africaine de football édition 2025-2026. Cette démarche est faite suite au retrait de l'homologation du stade des martyrs de Kinshasa par la CAF pour l'organisation des rencontres internationales, rappelle ce média. Une situation similaire avait déjà conduit les FC Saint-Éloi Lupopo, engagé en Ligue des champions de la CAF, à formuler la même demande auprès du TP Mazembe, avec un avis favorable des responsables du club louchois. Maniema Union prévoit notamment de recevoir le Wydad Athletic Club de Casablanca le 1er février 2026, puis Nairobi United du Kenya le 15 février. La Confédération africaine de football a officiellement notifié cette décision de suspension du stade des martyrs à la Fédération congolaise de football vendredi 9 février. Cette mesure fait suite à une inspection de l'instance continentale dont les rapports font état de graves défaillances structurelles, notamment des installations sanitaires dégradées, des équipements médicaux non conformes, un terrain ne répondant plus aux standards requis, ainsi qu'un dispositif de sécurité jugé insuffisant pour garantir le bon déroulement des rencontres internationales, conclut ce site internet d'information.
Et c'est la fin de cette édition du journal sur Radio Maïndéléo. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Hélène Boudjiri et Simon Barton Boussi, bien sûr, la mise en onde. Je vais vous laisser suivre la même édition dans sa version Kiswahili avec Mapendolinda. Au revoir.